Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Vous en avez certainement entendu parler, ces dernières semaines, les places boursières chinoises ont dévissé, comme on dit. Les actions cotées sur ces marchés ont perdu 40% et plus de leur valeur, entraînant dans leur chute de nombreux marchés mondiaux. Toujours en Chine, on vient d'apprendre que les ventes de voitures ont reculé de 3% en un an et donc que côté consommation, ça n'est plus ça. Au début de cette année 2015, nous avions consacré dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, ici même, une émission consacrée aux statistiques qui pouvaient faire apparaître la Chine comme la première puissance économique mondiale après 3 décennies de croissance ininterrompue à 2 chiffres. Aujourd'hui, 9 mois après, la tonalité est bien différente. Partout, on se pose des questions sur la pérennité du modèle chinois. Le yuan, la monnaie, a dû être dévaluée. Le commerce extérieur et la croissance marquent le pas. Alors, que se passe-t-il à Pékin ? Le moteur chinois connaît-il seulement quelques ratés ou est-ce une panne sérieuse ? Le Premier ministre Li Keqiang a-t-il raison quand il écarte tout risque d'atterrissage brutal du pays ? Voilà les questions que je vais poser aux 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour à Yang Zhang.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut Confucius pour les affaires au sein de l'école de commerce Neoma de Rouen. C'est à 130 km à l'ouest de Paris. Vous en êtes venu en train ce matin. Est-ce qu'on débat de ce qui se passe dans l'économie chinoise dans votre Institut Confucius? Est-ce que c'est au cœur des préoccupations en ce moment?
Bien sûr, on parle beaucoup de ça et je viens de faire un interview avec Chan Daly aussi sur le même sujet. Donc, on parle de ça.
China Daily vous interviewe, vous, Chinois de France, pour savoir
oui,
votre opinion.
Oui, ce n'est pas écrit, c'est un questionnaire sur l'économie chinoise et aussi la réaction des différents phénomènes qu'on parle beaucoup aujourd'hui.
Avec nous également Claude Meyer, bonjour.
Bonjour.
Claude Meyer, vous avez été directeur de la banque Tokyo Mitsubishi de Paris, banquier donc, mais aussi universitaire, chercheur spécialiste de l'Asie. Vous êtes conseiller du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous enseignez l'Asie à Sciences Po Paris. Début 2014, vous avez publié aux éditions Fayard un livre intitulé « La Chine, banquier du monde ». Est-ce que votre livre, s'il était publié aujourd'hui, porterait exactement le même titre ?
Oh, absolument, absolument. D'abord, ce titre, dire il peut pour les spécialistes, il n'est peut-être pas exact, parce que le véritable banquier du monde, pour l'instant, ça reste les États-Unis, en termes de liquidité internationale. Mais les turbulences qu'on a actuellement dans l'économie chinoise ne remettent absolument pas en cause, d'une part, les investissements de la Chine à l'étranger, qui vont continuer sur une pente ascendante.
On en parlera tout à l'heure.
Et par ailleurs, pour ce qui était de la devise chinoise, ce que j'en écrivais dans ce livre, on est exactement sur cette trajectoire, à savoir une internationalisation de la devise chinoise qui explique en partie la dévaluation qu'on a connue en août.
Et dans ce studio également à mes côtés, Jean-Joseph Boileau. Bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Vous êtes conseiller du club du CEPI, le principal centre de recherche économique en France. Vous avez publié l'an dernier aux éditions First l'Inde pour les nuls et il y a 2 ans Chine Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain. Je vois que vous avez ce livre sous le coude. C'était écrit avec Stanislas Dembinski, c'était aux éditions Odile Jacob. Dans ce livre, vous écriviez que la Chine devrait rattraper les États-Unis sur le plan économique en 2030, y compris en intégrant une crise de maturité. On y est à cette crise de maturité ?
Oui, tout à fait. Le livre publié en 2013, en fait, est écrit en 2011. Il y a déjà très clairement l'annonce de la maturité. Pourquoi ? Parce que quand vous allez en Chine régulièrement, on voit bien l'évolution année par année. Et donc, on est exactement dans la problématique du livre. On est à la fin du super cycle chinois de rattrapage qui a mis 40 ans et non pas 30 ans. Il faut remettre les pendules à l'heure. Ça a duré 40 ans. Et maintenant, on est dans cette transition vers quoi ? Et c'est la vraie question. Voilà pourquoi les marchés marcher tous et que tout le monde est un peu perdu. Il faudrait arrêter aussi d'être anxiogène, c'était le message de ce livre. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles derrière cet ajustement.
Alors dans cette émission, nous entendrons également un reportage de notre correspondante à Pékin, Heike Schmidt. Nous avons aussi rendez-vous avec un économiste chinois, un homme d'affaires français qui travaille et vit à Pékin, et le président français François Hollande.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Pour commencer, revenons sur ce qui s'est passé au mois d'août. Comment expliquer cette chute massive, brutale, phénoménale des actions chinoises, Claude Meyer, vous le banquier?
Oui, c'est assez logique. Ce qui n'est pas logique, c'est le moment où c'est arrivé, ou ce qui peut ne pas paraître logique. Pourquoi c'est logique? C'est qu'on a eu, et on a tendance à l'oublier, une envolée spéculative de très grande ampleur sur les bourses chinoises à partir du mois d'octobre 2014, au point que quasiment l'indice de Shanghai a doublé en 6 mois. Et donc là, on a une correction qui est naturelle d'un certain côté, mais la véritable question derrière, pourquoi cette correction arrive-t-elle aussi rapidement? Habituellement, quand on a effectivement une bulle spéculative, ça ne se dégonfle pas du jour au lendemain. Et je crois que là, effectivement, il y a la conjonction, et c'est là où on rejoint l'économie réelle. Si ça a éclaté à ce moment-là, c'est effectivement en raison des soucis, des inquiétudes concernant l'économie réelle chinoise à travers toute une batterie d'indicateurs qui devenaient de plus en plus mauvais. Que ce soit la chute des exportations, mais peut-être plus préoccupant aussi la chute des importations, parce que c'est ça qui indique véritablement le ralentissement industriel, sans parler d'une consommation intérieure qui devait être l'arme magique de la transition de l'économie chinoise et qui progresse beaucoup plus lentement qu'envisagé.
Ah, Yang Zhang, vous êtes actionnaire, vous avez investi sur la bourse de Shanghai?
Non, je ne participe pas aux investissements dans la bourse, mais il y a des amis qui font ça. Bon, il y a beaucoup qui ont perdu de l'argent, mais il y a eu un moment qu'ils étaient très contents, très optimistes. Mais je pense que la bourse chinoise est un peu différente des bourses occidentales. Donc, d'abord, c'est pas vraiment un bon indicateur de l'économie chinoise réelle. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de gens qui jouent ça, comme dans un casino. C'est pourquoi je pense que l'effondrement de bourse de Chine, c'est pas vraiment un indicateur de la fin de l'économie chinoise.
Jean-Joseph Boileau, qui est-ce qui investit dans ces actions chinoises? Ce sont des petits boursicoteurs comme les amis de M. Zhang, ou est-ce que ce sont des grosses boîtes?
Alors d'abord, l'État chinois, tout vendu. Moi, j'ai tout vendu en mai parce que je suis allé en mission à une conférence à Shanghai. J'avais un portefeuille de fonds sur l'Asie et j'ai tout vendu pour une raison simple. C'est lorsque tous mes amis de Shanghai m'ont dit, Jean-Joseph, il faut que t'achètes parce que regarde l'argent qu'on fait. J'ai retiré de mon grand-père toujours cette idée, on vend au son des trompettes et on achète au son des canons. Donc plus on vous disait d'acheter, plus on sentait la bulle spéculative.
Et vous aviez gagné beaucoup d'argent ou...
Ah bah oui, bien sûr.
Donc vous les avez gardés?
Ah oui, mais je me suis mis en liquidité. D'où, d'ailleurs, on comprend bien, Boileau fait comme tout le monde, hein, les moutonniers, et donc tous les marchés ont fait la même chose. Voilà pourquoi vous avez eu ce phénomène de crise. J'ai un banquier en face de moi, il sait bien que tout le monde fait pareil. Tout le monde vend, et d'où la grande difficulté des autorités chinoises, c'est comment tout d'un coup arrêter un mouvement qui est une bulle spéculative classique, quand, en plus, il y a des rumeurs. Alors, ce matin, j'étais avec les intervenants des marchés à Singapour. La rumeur d'aujourd'hui, c'est, il y a des fonds chinois qui cote le taux de change du yuan à 8 yuan par dollar, donc on est aujourd'hui à 6,4, c'est-à-dire en gros annonce d'une dévaluation dans les prochaines années. Donc vous comprenez que les capitaux continuent de sortir. Et donc toute la difficulté actuellement, c'est en même temps que la Fed américaine doit prendre
la
une
banque
décision,
centrale américaine.
La banque centrale américaine doit prendre la décision courageuse d'arrêter le
l'injection de capitaux, ce qu'on appelle le quantitative easing.
C'est comment, dans les pays émergents, donc de type la Chine, éviter qu'il y ait tous ces mouvements qui sortent. Alors, qui sort? Ben, c'est pas les petits épargnants. Alors, moi, je veux bien, mes copains chinois, c'est des petits épargnants. C'est pas vrai. Fondamentalement, c'était deux grands acteurs. Premièrement, les entreprises chinoises qui, depuis des années, ont des taux de rentabilité qui chutent complètement. Le return on equity, ce qu'on appelle en Chine, il est tombé à 3% maintenant. hein, le retour des investissements. Donc ils ont placé sur ces marchés-là, c'est des vrais spéculateurs parce qu'ils ont beaucoup de liquidités dans la mesure où les banques de toute façon leur donnent de la liquidité autant qu'ils veulent. Et deuxièmement, qu'on le veuille ou non, c'est les gouvernements locaux.
Qu'est-ce que vous appelez les gouvernements locaux? Provinciaux, les provinces
chinoises. Les villes. Ce sont de véritables capitalistes en Chine. En Chine, on n'a pas de capitalistes individuels. La Chine communiste, je parle. On a des capitalistes collectifs, fondamentalement. Et donc, c'est eux qui sortent les capitaux. Et
qui jouent contre le pays?
Ben, bien sûr. Ils se posent en dollars, en particulier. Quand vous avez l'espérance que le dollar remonte, comme c'est le cas, tout le monde l'escompte aujourd'hui, j'ai du yuan, je fais le calcul, l'arbitrage classique est de dire, je me place sur du dollar aujourd'hui, et j'achèterai du yuan demain. Voilà ce qui, à mon sens, est le signe majeur qu'il y a une crise du système. C'est pas les petits épargnants, c'est les grands capitalistes chinois qui ont un souci de vision de l'avenir.
Vous êtes d'accord avec cette vision des choses,
Il a pas vendu.
J'ai pas des informations confirmées sur ce que, par exemple, les autorités locales qui jouent sur la pousse. Il y a des institutions chinoises qui participent, aux investissements indirects dans la pousse, qui font la spéculation. D'ailleurs, le gouvernement est devenu très strict là-dessus pour essayer de trouver qui font la spéculation contre le gouvernement. Mais sur les autorités locales, moi, je suis pas au courant. Je sais pas comment il peut faire ça.
Alors, au début de la semaine, lors de sa conférence de presse, le président François Hollande a repris à son compte l'idée qui circule beaucoup, que vous exprimiez tout à l'heure, Jean-Joseph Boileau, selon laquelle rien de tout ce qui s'était passé sur cette bourse chinoise n'était très grave. On écoute le président de la République.
Si j'ai un message à faire passer, c'est que peut y avoir des ajustements. Il peut y avoir effectivement des conjonctures, et ça vaut pour un certain nombre de pays comme la Chine ou des pays émergents, mais pour ce qui concerne la Chine, j'ai toute confiance dans la capacité des autorités chinoises à mettre l'économie dans un sentier de croissance de long terme, même s'il peut y avoir des ralentissements.
C'était François Hollande. Dans le sens inverse, l'économiste et écrivain Jacques Attali était il y a 2 semaines l'invité de RFI dans l'émission Une semaine d'actualité. Écoutez ce qu'il disait de la situation chinoise au micro de Daniel Grillon.
La situation chinoise, chacun le sait depuis longtemps, totalement explosive. Elle tient sur une croissance très forte, ce qui permet d'avaler les chômeurs. On sait que s'il y a moins de 7% de croissance, il y a plus de chômage, et en particulier de chômage dans les migrants ruraux, qui sont de plus en plus nombreux en raison de l'attraction des villes. Et la croissance réelle chinoise est sans doute très inférieure à 7%, donc il y a un vrai problème. Et il a fallu aussi en même temps créer de façon tout à fait artificielle des bulles financières pour donner de la valeur à l'épargne, sachant que l'épargne des Chinois, qui représente pour la classe moyenne plus de la moitié de leurs revenus, sert à financer l'école, la santé et les retraites, puisqu'il n'y a pas de système institutionnel solide. Donc, quand les bulles s'effondrent, et c'est déjà le cas de la bulle boursière et un peu de la bulle immobilière, c'est l'ensemble du financement de la vie et de la protection sociale de la classe moyenne qui s'effondre.
Alors, Claude Meyer, qui a raison? Hollande l'optimiste, Attali le pessimiste?
Écoutez, je ne voudrais pas répondre soit d'une manière confucianiste ou taoïste, en disant la vérité est au milieu, parce que le milieu est sacralisé dans ces doctrines, mais d'une certaine façon, les préoccupations exprimées par M. Attali sont pertinentes et effectivement, il y a lieu d'être préoccupé sur un certain nombre de points dont on va parler. Sur le fond, l'optimisme de M. Hollande, en plus il a peut-être des informations que je n'ai pas, mais à long terme, je le partage, mais ça n'exclut pas des turbulences à répétition et relativement importantes dans les années qui viennent. Je m'explique. À mon sens, évidemment, il y a une manière tout à fait pessimiste de voir les choses, c'est celle de M. Attali, et il y a un certain nombre d'indicateurs qui, effectivement, le poussent à aller dans ce sens, que ce soit l'endettement des collectivités territoriales, un certain nombre de choses de cette nature. Il me semble pourtant que, en fait, on est là dans une transition beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue que prévu, mais qui était déjà anticipée par les autorités chinoises. Dès novembre 2013, il y a eu un plénum du Parti communiste extrêmement important, dont le but était effectivement d'asseoir l'évolution de l'économie chinoise en donnant un rôle décisif au marché, mais en prévenant que ça prendrait des années, les chiffres qui étaient donnés de 7 à 10 ans. transition. Quelle est cette transition? C'est finalement un nouveau modèle, puisque le modèle antérieur, on le répète à juste titre, était tiré par l'investissement, que ce soit celui des entreprises, l'investissement immobilier, les infrastructures, etc., et par les exportations, dont on sait bien sûr combien elles ont été importantes, mais dont le poids diminue régulièrement. Transition de cet ancien modèle vers un nouveau modèle qui serait donc alimenté par la consommation intérieure, la consommation des ménages, par l'innovation pour monter en gamme et y compris pour les exportations qu'elles aient plus de valeur ajoutée et le développement des services. Et cela, effectivement, c'est une transition beaucoup plus difficile, j'imagine, que les autorités ne l'imaginaient, mais c'est une transition absolument nécessaire et inéluctable, puisqu'effectivement, le rattrapage dont on parlait est quasiment terminé, que la pyramide des âges est extrêmement défavorable dans la mesure où la population...
C'est-à-dire ?
Eh bien, la population active stagne maintenant. Et la main-d'œuvre inépuisable des campagnes est en train de se tarir. Et que la compétitivité des entreprises chinoises en termes d'exportation s'est beaucoup dégradée, en tout cas comparativement à un certain nombre d'autres pays. Ça, c'est ce qui concerne proprement l'économie. Et du point de vue politique, la question, c'est effectivement comment l'État va gérer cette transition. Et moi, ce qui me préoccupe un peu dans ce qu'on a vu depuis la dévaluation et le problème boursier, c'est l'attitude de l'État qui va, je dirais, à l'opposé de ce qui était promis dans ce plénum, le rôle décisif du marché. Qu'est-ce qu'on a, on a assisté à quoi ?
À une intervention de l'État.
À un soutien au cours boursier par toutes les méthodes possibles et imaginables, avec d'ailleurs des dérapages et des ratés. Et on a effectivement une relance, que ce soit par les grands travaux, une relance budgétaire, etc. Mais donc, c'est... un interventionnisme qui perdure, parce que finalement, l'essentiel pour l'instant... Et pour un certain temps encore, c'est la stabilité et non pas le passage au marché. Donc, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps que prévu.
Ayang Jean, vous êtes d'accord avec cette vision des choses ? La transition vers une économie totalement capitaliste, vers une économie de marché en Chine, va prendre plus de temps que prévu ?
Bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps, surtout, par exemple, le changement de modèle d'investissement, de construire beaucoup d'infrastructures qui est investi pour en fait augmenter la croissance. Tout ceci, le gouvernement a annoncé de changer ça vers la consommation interne, mais avec la situation actuelle, surtout la perte de confiance de la classe moyenne, ça va ralentir ce changement. Mais aussi, je pense qu'il faut voir le gouvernement dans le sens, la capacité du gouvernement dans la mobilisation des ressources. Si le gouvernement voulait garder la stabilité sociale ou la stabilité
politique,
à ce moment-là, le gouvernement est capable d'investir de nouveau dans l'infrastructure, de lancer des nouveaux projets pour justement garder l'emploi, la croissance 7% ou 6%. Mais le gouvernement est capable de faire ça dans le cas de Chine.
La transition, Jean-Joseph Boileau, elle va se passer très doucement, très longtemps, très brutalement.
Bon, c'est très
brièvement,
rare.
Parce qu'on arrive à la fin de la première partie de cette émission.
Pour moi, le modèle du passé, c'est le cas japonais. On est tout à fait, comme le dit Raghuram Ranjan, le gouverneur de la Banque centrale indienne, mais qui a écrit un ouvrage remarquable sur qu'est-ce qui cloche, pas seulement le financier, ce sont ces économies tirées par l'exportation qui tuent l'économie mondiale, surtout quand on s'appelle la Chine. Donc moi, je ne crois pas du tout en une économie capitaliste libérale demain en Chine, ça va rester un modèle administré. La vraie question pour la Chine, c'est comment je sors de cette économie tirée par l'exportation ? Le Japon a toussé, et ce que montre bien Rajan, c'est qu'on ne sort pas facilement parce que les lobbies se sont organisés. Alors la fuite en avant actuelle, c'est la route de la soie. Ce sont ces immenses projets à l'international pour faire tourner les usines qui ont des surcapacités. Oui, ça va aider un peu, mais par définition, il faut tout casser en Chine pour redonner au système de la souplesse dans le marché intérieur. Et ça, c'est effectivement des questions politiques. Je suis assez pessimiste là-dessus.
On continuera cette discussion dans quelques minutes, Jean-Joseph Boileau, puisque nous sommes au terme de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à la Chine. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous parlons de la Chine, de ses problèmes économiques, de l'effondrement de la bourse, du ralentissement de son commerce extérieur avec trois invités. Ayang Zhang, directeur de l'Institut Confucius pour les affaires à l'école de commerce Neoma de Rouen. Jean-Joseph Boileau, économiste, auteur de La Chine d'Afrique, la Chine et l'Afrique et l'Inde feront le monde de demain aux éditions Odile Jacob. Et Claude Meyer, enseignant en Sciences Po Paris, auteur de La Chine, banquier du monde aux éditions Fayard. Voilà pour les présentations. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la crise boursière, la transition, l'atterrissage de la Chine, mais aussi l'effondrement et la panique des petits épargnants chinois. Mais il n'y a pas que ces épargnants qui souffrent du ralentissement économique actuel, les travailleurs chinois aussi. Écoutez ce qui se passe dans la grande banlieue de Pékin, à 20 km du centre de la capitale chinoise. Là, des chantiers de construction sont à l'abandon, faute d'acheteurs. Un reportage éco d'ici, éco d'ailleurs, signé Heike Schmidt à Pékin.
Assis sur des blocs de béton entre deux autoroutes, Zhang et ses camarades de fortune jouent aux cartes.
Il n'y a plus de boulot, nous faisons juste passer le temps. Je suis venu à 6h30 ce matin et s'il n'y a rien à faire, je partirai vers 16 ou 17h.
En face, des dizaines d'hommes ont posé leurs sacs remplis de spatules, de niveaux et de pinceaux au bord de la route. Sur des affiches écrites à la main, ils proposent leurs services en attendant qu'un chef de chantier vienne les engager.
Dans le passé, lorsque vous aviez terminé un boulot dans la matinée, vous en aviez un autre dans l'après-midi. Maintenant, pendant plusieurs jours d'affilée, vous attendez en vain. Et pendant ce temps, le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Les 14 euros pour ma place dans un dortoir ont triplé. C'est de plus en plus dur.
Si la Chine a connu un miracle économique ces deux dernières décennies, c'est grâce à des hommes comme Zhang et Li. Mais aujourd'hui, ces ouvriers du bâtiment sont les premiers à sentir que le moteur cale.
Beaucoup de chantiers sont à l'arrêt. Et même dans ma ville natale, connue pour fabriquer des remorqueurs, ça va mal. On pouvait y gagner entre 700 et 800 euros par mois. Mais cette année, l'usine est en difficulté et nous avons dû partir chercher du travail ailleurs.
Dans les statistiques officielles, les 200 millions ouvriers migrants n'apparaissent pas. C'est d'ailleurs pour cela que la Chine peut encore afficher un taux de chômage si faible de 4%.
C'est comme ça en Chine. Les chiffres sont loin de la réalité et ce sera encore pire dans les années à venir. Même si le gouvernement injecte de l'argent dans l'industrie. Pour des gens comme nous, la situation est bien pire qu'en France ou en Grèce. Pas de boulot, pas de logement, pas d'assurance maladie, rien.
Xu Xiawin, qui d'habitude travaille 16 heures par jour, a tenté de quitter la Chine à la recherche d'un avenir meilleur, mais il n'a pas pu obtenir de visa. À midi, aucun chef de chantier ne s'est montré. Celui-ci plie bagages. Pas évident pour ce paysan de 57 ans qui a quitté sa campagne pour aider sa famille.
Mon petit-fils doit payer ses frais d'école. J'essaye d'aider. Mais maintenant, j'arrive tout juste à survivre. Ces quatre derniers jours, je n'ai pas travaillé. J'ai besoin de manger, d'acheter quelques cigarettes et de l'eau.
Le mécontentement gronde parmi ces nouveaux chômeurs. D'ailleurs, depuis l'année dernière, l'ONG de défense des ouvriers China Labor Bulletin enregistre un pic dans les nombreux mouvements de protestation. Un phénomène qui a tout pour inquiéter Pékin.
C'est un reportage de Heike Schmidt dans la grande banlieue de Pékin. Ces ouvriers que Heike Schmidt a rencontrés, ils sont emblématiques de la situation de l'économie chinoise, Claude Meyer ?
Ils en sont en tout cas le symptôme, et c'est un symptôme effectivement dramatique pour les personnes concernées et préoccupant pour le pouvoir, parce que ça s'ajoute aussi à un autre problème qui est celui des manifestations environnementales. Et tout le problème, c'est lié d'ailleurs de toutes ces usines extrêmement polluantes en zone urbaine ou en zone rurale, mais très proche quand même des villages, et où malgré une législation qui est plutôt sévère du point de vue environnement, au niveau des collectivités territoriales, le problème de l'emploi est un problème majeur et ils hésitent évidemment à fermer des usines pour cette raison-là.
Majeur, le chômage en Chine, Jean-Claude Boileau ?
Chômage, exclusion. La question centrale pour la Chine, et je pense qu'elle a des marges de manœuvre de ce point de vue-là, elle va pas faire de la relance de l'investissement dans les ponts qui servent à rien, etc. Il y a partout, maintenant des infrastructures. Elle va pas faire de la relance par l'investissement industriel, il y a des surcapacités partout. Non, il y a une chose assez simple sur le plan technique pour un économiste, c'est faire de la croissance inclusive. Il y a aujourd'hui 400 à 500 millions de Chinois qui sont en fait des laissés pour compte. On le voit dans le cinéma, mais dès qu'on va, on prend le train à Shanghai pour aller vers Nanjing, on voit tout le long de la route, c'est laissé pour compte. Ça a l'air de rien, mais c'est pas facile du tout à faire. Je parlais des lobbies tout à l'heure. Pendant 40 ans, la Chine s'est structurée autour finalement de lobbies. Les gens qui vivent, les classes moyennes urbaines, qui vivent à Shanghai, qui sont bien, qui ont des bonnes retraites.
Vous voulez dire que Monsieur Zhang, ici présent, fait partie de ces lobbies?
Oui, comme moi, je fais partie des lobbies en France qui ne voient pas effectivement les laisser pour compte. Donc si la Chine arrive à trouver ce système pour intégrer, le problème c'est que ce thème, vous ne le voyez pas assez souvent. C'est l'école. C'est la santé, c'est le droit du travail. Ils vivent avec des contrats précaires, massivement encore en Chine. Quand je dis 200, enfin j'ai entendu 200, non, c'est 4 à 500 millions de gens en Chine qui sont dans une situation précaire. Et ça veut dire un effort surhumain
pour le
Parti communiste.
C'est le quart de la population.
Oui, c'est ça. C'est un effort surhumain du Parti communiste parce que lui, c'est 50 millions de gens qui vivent bien, qu'on le veuille ou non, et il faut faire péter leurs avantages acquis. Et ça, c'est pas évident. Alors ça va passer par des crises régulières, permanentes, et je pense qu'il faut un homme qui ait une vision. Et je ne suis pas certain, pour l'instant, hélas, que Xi Jinping ait exprimé cette vision. Il parle de la nouvelle normalité, la new normal, etc. Mais on ne voit pas, depuis 2 ans qu'il tient les rênes du pouvoir, la notion de croissance inclusive. Ça, c'est fondamental.
À Yangzhang, vous en connaissez, vous, de ces migrants, de ces gens dans votre entourage proche ou plus ou moins lointain?
Bien sûr, c'est un phénomène partout qu'on voit, dans les banlieues de la ville, qu'il y a toujours des gens qui offrent leur job. Donc, c'est une sorte de migrants internes en Chine, sont des gens qui laissent leur famille dans la campagne et qui viennent vivre dans la ville. Même ils sont pas comptés dans le taux de chômage parce que normalement ils ont leur job dans la campagne. Ils sont partis dans la ville avec leur propre volonté. Donc c'est pas une sorte de chômage dans la statistique. Il y a aussi, il faut voir, regarder un peu dans le passé que c'est grâce à ces mains d'œuvre que la Chine a pu connaître le processus de l'industrialisation. Pour le moment, il y a un changement dans le modèle de développement. Donc,
c'est quoi ce changement?
C'est l'urbanisation. Donc, ça veut dire essayer de créer une sorte d'infrastructure pour absorber les gens qui quittent leur campagne, essayer d'augmenter la partie de services dans la structure économique. Donc avec le surplus dans la manufacturée, la Chine voulait transférer une partie de ses main-d'œuvre dans le service. Le problème, c'est que
c'est main-d'œuvre qui passerait de l'industrie au service.
De l'industrie au service, aussi de
col bleu à col blanc.
Oui, aussi de l'agriculture vers la ville. Mais le problème, c'est la formation, l'éducation. Donc ces gens-là ne sont pas préparés pour travailler dans le service. Aussi le problème institutionnel, qui n'est pas encore prêt pour les accueillir, par exemple l'éducation pour leurs enfants, le système de retraite, le système de santé, et tout ça. Donc c'est pourquoi je pense que la Chine a beaucoup à faire pour une sorte de transformation institutionnelle, pour préparer une base institutionnelle pour mieux les accueillir, aussi essayer de redistribuer le revenu, donner une meilleure condition à ces gens-là pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'économie.
Donc, Claude Meyer?
Oui, à travers ce reportage, on sent évidemment la vulnérabilité extrême de ces migrants, mais plus largement, ça nous interroge aussi sur les vulnérabilités sociales en Chine. Et ça ne nous éloigne pas des problèmes économiques, au contraire. En Chine, donc, bien qu'il y ait ce projet de généralisation de la protection sociale à l'échéance 2020, il faut quand même rappeler qu'en termes assurance chômage, en termes de santé, en termes de retraite, la couverture, surtout en milieu rural, mais également urbaine, elle est très parcellaire et minimale dans la plupart des cas. Donc là, on a effectivement ce plan de protection sociale, et si investissement il doit y avoir, c'est effectivement pas dans les ponts dont parlait Jean-Joseph, mais dans la protection sociale et d'accélérer le processus. Pourquoi ? Non seulement pour le bien-être de la population, mais parce que c'est un rapport direct avec un début des autorités chinoises, à savoir développer la consommation. Et la contrepartie de cette consommation très faible en Chine, 36% du PIB contre 60% dans les pays développés, et même certains pays émergents comme le Brésil et autres, pourquoi ce taux de consommation si faible ? Parce que les Chinois épargnent. D'où le fait, effectivement, la Chine banquier du monde. Ils épargnent. Pourquoi ? D'une part, parce que les prix de l'immobilier ont atteint des sommets. Bon, maintenant, c'est en train de se dégonfler. Mais surtout, parce qu'il faut donc mettre un pécule de côté pour faire face aux dépenses de santé, sachant qu'à l'hôpital, vous serez remboursé 20% quand vous êtes remboursé, etc. Donc, de mon point de vue, le plan des autorités chinoises devrait être d'accélérer cette mise en œuvre de la protection sociale, parce qu'à partir du moment où des garde-fous seraient posés pour toutes ces vulnérabilités diverses et variées, les Chinois consommeraient davantage.
Alors, pour maintenir les niveaux d'occupation, les autorités chinoises, l'industrie chinoise doit créer 10 millions d'emplois par an dans les villes, Jean-Joseph Boileau. On est sur cette tendance-là ?
Non, du tout. Et c'est pour ça que le ralentissement qu'on observe depuis quelques mois, deux ans en réalité, m'inquiète beaucoup. Parce que le vieillissement de la Chine, c'est quelque chose...
Mais de la population, vous voulez dire ?
Oui, mais il va se produire quand même plutôt dans les 20 ans à venir. Donc on a ici une parenthèse. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que il est très intéressant toujours de regarder le temps long. Le décollage de la Chine, selon Amartya Sen, et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus...
Donc, Amartya Sen, c'est le grand économiste prix
Nobel.
Voilà,
le prix Nobel d'économie.
Indien, mais voilà. Enseignant aux États-Unis.
Et qui explique bien, à juste titre, que la Chine a mieux fait que l'Inde. Mais il dit... La Chine a mieux fait dans les 30 dernières ou 40 dernières années parce que les investissements d'après-guerre, la Chine maoïste, avaient investi massivement dans le capital humain et notamment dans les femmes, dans la libération des femmes. Donc Deng Xiaoping, en réalité, a prélevé sur le capital de la Chine des années d'après-guerre pour en faire une machine à exporter vers le reste du monde. Le problème, c'est que depuis qu'il est là, ils ont démantelé tous ces investissements.
Et investissements ?
Les investissements publics dans l'éducation, dans la santé, ce qui était dit sur le système de santé, l'absence totale de retraite. Quand je parle avec ces ouvriers qui sont autour de la gare de Nanjing à Shanghai, ils me racontent bien, personne n'a de retraite. Personne. Donc vous comprenez qu'on quand on a la moitié de la population, enfin 500 millions à peu près de personnes qui sont dans cette situation-là, on a un vrai problème. Et ça, vous ne revenez pas au niveau du compteur dans une bonne situation rapidement. La Chine nous dit j'ai 33 millions d'étudiants dans les universités. C'est vrai que c'est remarquable. Vous allez enseigner dans Tsinghua, vous dites c'est exceptionnel. Oui, ce qui fait très peur, c'est la Chine à deux vitesses. Parce que vous avez cette classe moyenne de partis, etc., qui... elle va vers la Chine du 21e siècle, et puis vous avez une Chine qui est du 20e siècle et qui évolue assez peu. Donc, pour relancer la machine durablement, il faut revenir à ces investissements en capital humain, au total. Ça veut dire arrêter d'investir dans des ponts, dans des usines, etc. Mais ça, dans les villes, les autorités municipales que je rencontre, je n'ai jamais senti ce souci-là. C'est ça qui m'inquiète un peu. Donc, il faudra probablement... 2-3 ans de crise, et pas seulement boursière. Vous allez avoir ces tensions de chômage, etc., pour éventuellement, espérons-le, que le parti prenne conscience qu'il faut un New Deal. Pas en Afrique, en Chine même.
Alors c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI que vous écoutez. Nous parlons, vous l'avez compris, de l'économie chinoise, crise ou pause. Trois invités pour nous éclairer, Claude Meyer, banquier universitaire, Jean-Joseph Boileau, écrivain, membre du club du CEPI, et Ayang Zhang, directeur de l'Institut Confucius pour les affaires auprès de l'école de commerce Neoma de Rouen. On vient de parler des migrants, ce qui est certain, c'est que des usines chinoises ferment. Écoutez ce qu'en dit l'économiste chinois Hu Xingdu de l'Institut technologique de Pékin, au micro de Heike Schmidt, correspondant de RFI, dans la capitale chinoise.
外出的农民工可能在
Si moins de migrants quittent la campagne pour travailler, la Chine perdra son avantage de main-d'œuvre pas chère. Or, dans le passé, le développement économique de la Chine dépendait justement de cette main-d'œuvre bon marché, des faibles dépenses pour l'environnement et de la matière première à bas prix. Mais maintenant, tous ces coûts sont à la hausse. Du coup, le modèle économique du passé, avec ses emplois peu qualifiés, sa technologie bas de gamme et la pollution qui va avec, n'est plus compatible avec un développement durable. Donc l'économie chinoise doit d'urgence se réformer. La production bas de gamme n'a plus d'avenir. En plus, la Chine a un problème de surcapacité, mais elle n'a pas encore le savoir-faire pour produire de la haute technologie. Nous manquons de créativité. La Chine doit se transformer pour dépendre moins de l'investissement et plus de sa créativité. Mais c'est très compliqué, d'autant que la plupart des entreprises sont contrôlées par l'État et ne sont donc, par définition, pas créatives. Et puis la Chine souffre d'un manque d'éducation qui favorise de nouveaux talents et des idées novatrices. C'est pour cela que je crois qu'il est impossible de transformer l'économie chinoise.
Alors, on retrouve dans cette intervention beaucoup des thèmes qu'on a évoqués pendant ce début d'émission. Il y a un mot sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est celui de surcapacité que cette économiste chinoise évoque, que vous avez évoqué les uns et les autres depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, surcapacité, Claude Meyer ?
Ça veut dire que précisément ces taux de croissance de 10%, maintenant 7,5%, etc., comme on l'a indiqué précédemment, reposaient sur les exportations, mais reposaient sur l'investissement. L'investissement de l'État dans les infrastructures, mais investissement, bien sûr, des sociétés industrielles, avec effectivement des perspectives toujours pas très maîtrisées, se disant produisons, produisons, produisons. Et donc on arrive maintenant à un taux d'utilisation... je ne sais pas 70, si c'est 85...
70, c'est tombé à 70%.
70%, qui est relativement préoccupant. Donc les surcapacités, elles sont là, d'où...
Ça veut dire qu'il y a trop d'usines, trop de ponts, trop de routes ?
Absolument, et surtout, puisqu'on parle là d'exportation par exemple, surcapacité qui entraîne effectivement des exportations et parfois des problèmes de dumping, parce qu'il faut effectivement, écouler tout ce qui est produit.
Jean-José Boileau, sur capacité ?
Oui, oui, les surcapacités sont gigantesques. Je faisais référence au cas du Japon. On a connu aussi ces surcapacités au Japon. Donc, on connaît à peu près la mécanique. Simplement, la Chine, c'est énorme. Et donc, quand vous êtes la première économie mondiale, parce que par le PIB, il n'y a pas de miracle, la Chine, c'est la première économie mondiale, 17% du PIB mondial, ça n'a pas le même impact que quand vous êtes au Japon, à 6%. Donc, des surcapacités. Et puis, les sous-capacités en capital humain. C'est-à-dire, ce qui était dit dans le reportage est absolument remarquable. Vous ne passez pas d'un ouvrier qui était sur un chantier à un ouvrier dans une usine de matériaux de précision, ou vous ne faites pas d'un enfant du parti quelqu'un qui va être extrêmement créatif, d'autant plus qu'on leur tape sur les doigts tout de suite, Monsieur Zhang, c'est bien ça.
Monsieur Zhang, est-ce que la Chine reste l'atelier du monde, comme on a eu l'habitude de la baptiser pendant longtemps ?
Et surplus, surtout dans l'industrie de l'exportation, et surtout dans des petites et moyennes entreprises dans le sud du pays. Mais il faut aussi regarder qu'il y a déjà une industrie qui est structurée en Chine, qui dépend beaucoup de son milieu écosystème. Par exemple, si on parle de la production d'électroménager, il y a un surplus, mais le monde entier dépend encore de Chine pour ses produits. Par exemple, iPhone, Apple, tous des produits en Chine. Et ce système, c'est difficile de délocaliser vers un autre pays, par exemple, Vietnam ou Cambodge. Donc, pour les petites usines, on peut fermer facilement, on peut déplacer, mais pour les grandes infrastructures, dans le soleil panneau, tout ça, c'est difficile.
Les panneaux solaires,
oui. Les panneaux solaires.
Alors, je voudrais vous faire entendre le témoignage d'un jeune entrepreneur français en Chine. Il s'appelle Alexis Bonhomme et il intervient dans le domaine digital. Et lui, il parle de plusieurs Chines.
C'est une transformation nécessaire, c'est un assainissement du marché également nécessaire, parce qu'on était sur des croissances à double chiffre, quelle que soit l'industrie, qui n'était pas saine sur le long terme. Quand on avait des croissances de 20%, 30% chaque année, soutenues par le gouvernement, c'était pas forcément sain sur le long terme. Et aujourd'hui, en fait, d'un point de vue entrepreneurial, c'est un énorme avantage d'avoir, j'allais dire, un ralentissement, c'est beaucoup dire, mais disons-le, c'est le cas dans les villes premier tiers. Canton, Shenzhen, Shanghai, Pékin. Oui, il y a un ralentissement économique, une stabilisation. Par contre, sur les villes deuxième et troisième tiers, notamment on prend un exemple d'une ville comme Chengdu, qui est en plein boom économique, c'est assez impressionnant. Et aucun marché au monde, et qui plus est, quand on parle de 20% de l'humanité, ne peut grandir de 10, 15, 20, 25% chaque année, quoi qu'il se passe. Ce n'est pas possible.
Propos recueillis évidemment par Heike Schmidt, la correspondante de RFI à Pékin. Plusieurs Chines, donc, l'une sur le reculoir, l'autre qui avance, Claude Meyer.
Oui, sans doute. Et je voudrais, peut-être, si vous le permettez, revenir sur le témoignage précédent de cet économiste chinois, qui, effectivement, parle d'or. Il me semble un petit peu sévère sur l'économie chinoise quand il dit, en créativité, c'est quand même pas au point, etc. Un des facteurs essentiels pour une croissance durable pour la Chine, en effet, ça va être la montée en gamme, la créativité, l'innovation, etc. Et je crois que le véritable challenge pour la Chine, vous parliez d'atelier du monde, si elle veut vraiment devenir le laboratoire du monde, c'est effectivement sa capacité à innover, à déposer des brevets, etc. Et de ce point de vue-là, la Chine est devenue le premier déposant de brevets au monde, mais évidemment, ces brevets, si on compare à d'autres pays, et surtout le Japon et les États-Unis, ces brevets sont déposés en Chine et n'ont pas encore de visibilité internationale. Si on prend par exemple ce qu'on appelle les brevets triadiques, déposés à la fois aux États-Unis.
Qu'est-ce que c'est que les brevets triadiques ?
Voilà, déposés simultanément au Japon, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Le Japon arrive en tête, même avant les États-Unis, alors que la Chine, c'est minuscule, ça sort des statistiques.
Donc, c'est-à-dire que les brevets chinois ne sont pas exploitables ailleurs.
Il y a un acquis du Japon, et le challenge, y compris vis-à-vis du Japon, c'est la technologie. Et là, je crois qu'il y a des progrès tout à fait spectaculaires dans des domaines, surtout à forte visibilité internationale, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'espace, que ce soit les TGV, etc. Donc moi, je suis très optimiste en fonction de la qualité quand même de l'éducation en Chine, du nombre d'ingénieurs qui sortent des universités chinoises ou qui vont se former à l'étranger, de la capacité de la Chine à relever ce défi, et je pense qu'on va être surpris, mais ça va prendre une bonne dizaine d'années effectivement pour que les choses se traduisent dans les statistiques.
Alors, la société Uber vient de lever plus $1 milliard pour investir en Chine. Comment interpréter ça, Jean-Joseph Boileau? Est-ce que c'est un acte de confiance? Est-ce qu'on assiste à ce qu'on appelle ici en France une ubérisation de l'économie chinoise?
Vous avez ça, vous avez l'annonce également d'un investissement majeur du fabricant d'ordinateurs Dell. Non, il faut arrêter, ce n'est pas la fin du monde, parce que c'est 17% du PIB mondial et ça va le rester avec 3% de croissance, tenez-vous bien. La Chine fera encore mieux que l'économie mondiale, donc son poids dans l'économie mondiale va continuer de croître. On est plutôt dans la question du changement de modèle.
Attendez-vous, voilà. Ce chiffre de 3% de croissance, c'est le chiffre que vous annoncez?
C'est la croissance chinoise actuelle, oui. C'est 3, 3,5 bien sûr.
Parce que tout le monde parle de 7%.
Non, pas tout le monde. Le gouvernement dit.
Le gouvernement.
Mais on sait bien que le gouvernement chinois publie les résultats avant même de les connaître. Nous avons tous, les économistes un peu sérieux, des estimations précises basées sur la consommation d'électricité, le commerce international, etc. Et en gros, vous avez du 3% de croissance. Dans une ville comme Shanghai, on le disait ouvertement, la croissance à Shanghai actuellement est de moins de 2%. Et ça se voit, vous avez plus les tours qui construisent tout, etc. C'est terminé l'affaire Shanghai. Donc la Chine, c'est pas la fin du monde, ça va rester peut-être pas l'atelier du monde dans l'ensemble des produits, mais ça va rester le grand foyer d'activité industrielle du monde, c'est évident, il faut voir la qualité des ingénieurs chinois, il faut voir l'ardeur au travail, etc. Non, la question qu'on se pose, c'est celui de la sortie d'un modèle tiré par l'exportation. Et ça, c'est vrai, c'est un défi politique et économique très très sérieux pour la Chine.
On est passé de 10% à 2-3% de croissance, Claude
Meyer. Oui, alors ça, c'est un débat très difficile, parce que celui des statistiques chinoises. Dans l'ouvrage que vous avez cité, je fais le point là-dessus, mais il date effectivement de 2 ans. Oui. Il y avait un consensus au niveau macroéconomique, et notamment soutenu par une étude très approfondie de la Federal Reserve de San Francisco, sur la fiabilité, la robustesse quasiment des statistiques chinoises du point de vue macroéconomique, donc de la croissance. Les statistiques sociales, non. Le taux de chômage et un certain nombre d'indicateurs politique, non. Bon. Effectivement, depuis 2 à 3 mois, on voit paraître des études dont certaines donnent un taux de croissance de 2,5-3%, avec des arguments sans doute valides, mais dont je ne vois pas où on prend en compte le développement spectaculaire des services. Donc il y a tout un problème statistique en Chine, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui même, le Bureau national des statistiques indique et qu'il va y avoir une modification, et j'espère que ça sera transparent, de manière à ce qu'on puisse y voir clair. 2 à 3 % ça me paraît quand même excessif, excessif sous-estimé. Je crois, un, que la Chine n'arrivera pas à 7 % mais que ça sera plutôt vers 5,5-6 %. Mais effectivement, on contestera éventuellement le chiffre auquel on arrivera en disant que c'est manipulé. Donc c'est vraiment très très difficile. En revanche, pour les statistiques, si on conteste celle d'aujourd'hui, il faudrait contester aussi celle des 10 %. Or, il y a un autre indicateur qui est celui quand même du PIB par habitant. Et on ne peut pas contester que le PIB chinois était à la fin des années 70 de 3% du PIB par tête américain et qui représente maintenant 25%. Donc il y a eu des taux de croissance quand même spectaculaires qui valident ou dans une certaine mesure qui rendent crédibles les chiffres qui nous ont été donnés. Quant à ceux d'aujourd'hui, on peut se poser la question.
À Yangzhang, pour une dernière intervention dans cette émission, vous parieriez sur quoi? 2-3% de croissance? Ou 7% ou 6%?
Ouais, c'est difficile. C'est un débat difficile, mais il faut regarder la réalité que la Chine a connue de grands développements, surtout dans les grandes villes. C'est beaucoup plus rapide que 5% ou 2% au début. Quand il y a des crises, on a un peu d'inquiétude, mais quand même, si on regarde un peu l'investissement chinois vers l'Europe, il y a une augmentation de 20% pendant la première partie de cette année. Je pense pas qu'on peut compter sur les chiffres 3-4% pour voir vraiment le progrès de Chine.
Merci à Yang Zhang, c'est la fin de cette émission.
Pour dire, non, c'est une bonne nouvelle.
C'est terminé.
C'est une très bonne nouvelle, c'est ça que je voulais
Mathieu
dire.
Mathieu Salabert était au pupitre technique. Merci à vous trois, Claude Meyer, à Yang Zhang et Jean-Joseph Boileau de nous avoir éclairés sur cette Chine en crise. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs.